Des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Academy.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour Alain Decaux.
Bonjour.
Dans notre série d'émissions consacrée à Sacha Guitry, en partenariat avec la Cinémathèque française, vous êtes une pièce centrale du puzzle, puisque vous avez connu personnellement cet homme de théâtre et ce cinéaste qu'est Guitry. Il fut un ami pour vous, et Guitry n'a pas eu la chance d'être un de vos confrères de l'Académie française. Nous allons y revenir. Merci de nous accorder ces quelques instants, alors que vous sortez tout juste d'une séance de la française. Vous racontez même que vous avez formulé l'envie de rencontrer Sacha Guitry, et ce, dès l'âge de 13 ans, puisque vous lisez alors ces pièces de théâtre dans la petite illustration. Qu'est-ce qui vous attirait alors vers Guitry alors que vous n'étiez qu'adolescent ?
Je précise qu'à 13 ans, j'ai commencé à lire la petite illustration, donc du Guitry, mais je n'ai pas formulé l'envie à 13 ans. Je ne pouvais pas imaginer que je le verrais un jour. D'ailleurs, j'étais provincial à Lille, et puis nous n'imaginions pas que la guerre allait nous chasser, comme beaucoup de gens, et que j'allais me retrouver parisien. C'est donc quelques années après que j'ai cherché à voir Sacha Guitry.
Et donc vous cherchez à le voir alors que vous êtes étudiant, vous en droit et en histoire. Vous avez des amis qui sont apprentis comédiens, qui veulent monter une pièce de Guitry, et il vous expédie chez Guitry. Quelle drôle de situation, vous allez sonner chez lui et Guitry vous reçoit. À l'époque, quel intérêt vous aviez pour Guitry, outre les premières rencontres théâtrales que vous aviez eues à distance ?
Eh bien, mon intérêt pour Guitry s'était accru parce que j'avais vu les films. Et là, j'avais été enthousiasmé par les perles de la couronne, remontant les Champs-Élysées. Je ne suis pas sûr d'en avoir plus, mais sont en mémoire. Alors, voilà, je l'admirais follement. Quant à ces comédiens amateurs, car c'était des élèves dans un cours, le cours René Simon, et qui, j'avais fait la connaissance de l'un d'eux, et puis peu à peu, j'en avais connu quelques-uns. Et j'ai suivi leur projet. Ça me passionnait qu'ils veuillent monter une pièce de Sacha, surtout que ce sujet ne pouvait que leur plaire. C'est une pièce qui s'appelle Jean III, où l'irrésistible vocation du jeune Montdoucet, ben pourquoi, qu'est-ce que c'est ? Montdoucet, c'est un jeune homme qui veut faire du théâtre, fils d'un négociant qui ne veut pas. Et tous ces jeunes comédiens étaient dans la même situation. Leurs parents ne voulaient pas. Ils se disaient, on va se venger en montant cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé ? Ils m'ont dit, écoute, tu vas y aller. Je dis, pourquoi moi ? Mais parce que tu es étudiant, ça fera plus sérieux. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas pu faire... Mais j'étais affreusement timide à cette heure. J'avais 18 ans. Horriblement timide et sonné à 11h du matin sans rendez-vous. C'était le cœur battant. Eh bien, miraculeusement, il m'a reçu.
Sacha Guitry vous reçoit, et même dans le salon que vous allez bien connaître plus tard, c'est une première approche de ce salon, une première approche de Guitry. Qu'est-ce qui vous a frappé, le salon ou Guitry à ce moment-là ?
On ne peut pas l'appeler un salon. C'est une longue galerie entièrement ouverte sur le Champ de Mars, où il y a tout. Il y a à la fois son bureau tout au fond à droite, sur lequel il écrit. Derrière ce bureau, il y a un buste de Jean-Jacques Rousseau, et au centre, à gauche, une photo dédicacée du prince Napoléon et à droite, une photo dédicacée du comte de Paris. Et il m'a dit, en montrant Rousseau, « Rousseau, c'est la liberté, il n'y a rien qui m'est plus cher que la liberté. » Et en montrant les deux prétendants, il m'a dit, « Voilà mes opinions politiques. » Et je lui ai dit, « Mais maître, comment vont-ils s'arranger entre eux ?» Il m'a dit, « Cela ne me regarde pas. » Qu'ils se mettent d'accord. Voilà, c'était du Sacha. Et puis on a fait le tour de toute cette longue galerie. J'ai vu cette collection de tableaux extraordinaire. Il avait commencé à collectionner les impressionnistes quand il était tout jeune et que les impressionnistes n'étaient pas chers. Et puis il a continué toute sa vie. Et c'était un musée privé extraordinaire. Et puis de l'autre côté, à gauche, eh bien, il y avait un buste de Clémenceau qu'il avait littéralement vénéré. et derrière des vitrines avec ses collections d'objets ayant appartenu à des grands hommes ou à des grandes femmes. Et chacun avait une histoire qu'il m'a racontée. Il m'a gardé en tout une heure. Pour un inconnu, c'était merveilleux. Et à la fin, il m'a dit, dites à vos amis que j'accepte, à une condition. Je dis, mais maître, elle est sûrement acceptée. La condition, c'est qu'il répète, quand ils seront à la veille de jouer, qu'on me le dise, j'irai les voir, parce que quelquefois, on fait erreur quand on joue un texte de moi. Alors, voilà, et ça ne s'est jamais fait, puisqu'entre-temps, il y a eu l'insurrection de Paris, et bien entendu, on n'a pas fait de théâtre. Et d'ailleurs, tous mes camarades sont allés un peu partout à ce moment-là.
Oh, vous avez eu l'occasion de bien connaître cette maison Guitry, puisque vous y êtes retourné, mais cette fois-ci sans lui, dans des circonstances assez exceptionnelles. Le 23 août 1944, Sacha Guitry est arrêté. Et est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai lu qu'il avait confié la maison à Madame Choisel. Il sort, on a coupé les fils téléphoniques. Et vous êtes en quelque sorte réquisitionné pour surveiller la maison Guitry. Comment ça s'est passé exactement?
C'est pas vraiment ça. C'est que, habitant chez mes parents encore, tout près, d'ailleurs avenue de la Motte-Piquet, la concierge me dit, pendant l'insurrection, on a arrêté Sacha Guitry. Je ne voulais pas le croire, mais c'était à deux pas. Les concierges sont merveilleuses, il y a un réseau, hein, si j'ose dire. Et je suis sauté sur mon vélo et je suis allé sonner. Madame Choisel m'a reconnu, a éclaté en pleurs en disant, quand il a été arrêté sans aucun mandat d'ailleurs, sans justification, il m'a dit, Madame, je vous confie ma maison. Je suis donc en quelque sorte responsable des objets, des tableaux que vous connaissez maintenant. Et si des gens venaient avec de mauvaises intentions, que pourrais-je faire? Je lui dis, mais madame, vous n'avez qu'à téléphoner à la police. Et elle me répond, mais monsieur, la police est en grève. Elle vient d'adhérer à la résistance. J'ai trouvé que c'était un peu tardif, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, elle me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je suis depuis un an et demi membre des équipes nationales. Les équipes nationales, c'était un groupe de secouristes. Et les derniers temps, nous étions requis pour les bombardements, où il fallait tout de même apporter de l'aide. Je me souviens du bombardement de Saint-Ouen qui avait tout détruit. Et de notre arrivée là, essayant de fouiller, c'était très dramatique. Et les équipes nationales venaient, comme la police d'ailleurs, se rallier à l'insurrection. De sorte que j'étais devenu résistant à mon insu. Alors, j'ai dit, je peux en parler aux équipes nationales. Et elles m'ont dit, oui, s'ils pouvaient nous aider, ils pourraient peut-être protéger cette maison. Et là, j'ai réussi à ressauter sur mon vélo, de traverser une partie de Paris. Je suis arrivé au lieu où se tenait la direction des équipes nationales. Et les équipes nationales, entre parenthèses, c'est vrai, ont pris l'hôtel de ville et l'ont gardé contre les Allemands. Et là, j'ai vu les chefs. J'avais une lettre de Madame Choisel qui disait, messieurs, ne savez pas de qui il s'agit. Voilà, monsieur Guitry a été arrêté, je suis responsable. Pouvez-vous m'aider à protéger cette maison? Alors, je me vois toujours tant dans la lettre à ce chef qu'on m'avait désigné, que je ne connaissais pas, qu'il la lit et qu'il la passe à son voisin en lui disant « Qu'est-ce que t'en penses ?» Le second lit et lui dit « Elle a raison, cette bonne femme. » Il lui retend la lettre et le premier me regarde, me désigne du doigt et me dit « T'es nommé !» J'étais nommé officiellement gardien de la maison de Sacha Guitry par un organisme relié à la résistance. Donc j'avais un papier, ordre de mission, et je suis revenu. J'étais accueilli par Madame Choisel et tout le personnel, comme le Messie, si j'ose dire. Et j'ai dit, maintenant je m'installe là, je ne quitterai plus la maison tant qu'on ne me forcera pas de la quitter. J'ai passé 4 jours et 3 nuits dans cette maison, qui sont dans ma mémoire comme chose extraordinaire. Et là, j'ai vécu dans cette maison tout imprégné de sa présence. Il y avait sur son bureau un manuscrit qu'il était en train d'écrire, qu'il n'avait pas fini. Un peu partout, sa présence était là. Et voilà, on est venu simplement me relayer le troisième matin, ou quatrième matin, je ne sais plus. J'étais couché dans la chambre de Madame Sacha Guitry, qui n'était pas là, je tiens à le présenter. Il y avait son chien, c'était Geneviève de Serville, n'est-ce pas, qui était partie naturellement. Je dis naturellement, elle était partie juste avant la libération, avec un sens de l'actualité tout à fait remarquable. Et on m'a dit, on va vous donner sa chambre. Et là, bon, et on m'a porté le petit déjeuner au lit. Vous imaginez que tout était bizarre dans tout ça, à la fois profondément émouvant, drôle sur d'autres plans. Et puis ce matin-là, on a frappé à ma porte un monsieur en civil qui m'a dit, je suis l'inspecteur untel, police nationale, on va vous relayer, monsieur. Et alors là, je suis parti. Mais quand Sacha, qui avait passé 2 mois, d'abord au dépôt, ensuite à Drancy, ensuite à Fresnes, n'ayant aucune charge, impossible de le garder, il n'y a rien contre lui. Et là, il y a un dossier qui a été vu avec motif de l'arrestation de point inconnu. Bon, voilà, alors on l'a libéré. Et il a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « 60 jours de prison ». Ça permet de situer... Et on lui racontait l'histoire de ce garçon singulier qui était venu garder sa maison. Et il a dit « Je veux le voir, je veux le voir ». Et je suis arrivé pour le voir. Et là-dessus, il était en robe de chambre, parce que chez lui, il était toujours en robe de chambre. Et il m'a ouvert les bras, m'a embrassé et m'a dit « Puisque vous avez sauvé ma maison, c'était quand même très exagéré, eh bien, considérez que vous y êtes chez vous. Venez quand vous voudrez. » Je dois dire que j'ai profité beaucoup de cette offre. Est arrivée cette amitié paradoxale entre un homme de 60 ans, célébrissime, et un jeune inconnu de 18 ans. C'était hallucinant. Et là, cette amitié s'est nouée. Il voulait que j'aille le voir tout le temps. Quand je le voyais un soir, j'avais commencé à la Libération à écrire dans les nouveaux journaux. J'étais jeune journaliste. Et je commençais à travailler sérieusement. C'était difficile, quelquefois, d'aller tous les jours, mais je me suis arrangé quand même. Je n'allais pas refuser cette chance extraordinaire. Alors voilà. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. Alors, il a eu un premier long lieu assez rapidement. Et normalement, il pouvait reprendre à ce moment-là. Mais il avait une meute. Une meute, c'est le mot, de gens qui n'admettaient pas. Pour eux, c'est comme il le disait à juste raison, je paye 50 ans de succès. Mais oui, il est jaloux, ça fait les autres n'avaient pas eu 50 ans de succès. Alors on a écrit dans certains journaux que ce juge d'instruction n'était pas fiable, que c'était très étrange qu'il ait un non-lieu, et les pouvoirs qui sont quelquefois peu courageux ont dit on va en donner un nouveau. Juge d'instruction. Ça a recommencé. Et il a fallu attendre 3 ans pour que le deuxième non-lieu soit donné. Et ce qui faisait dire à Sacha, avec sa voix, je peux difficilement l'imiter, je suis l'homme qui est bénéficié de 2 non-lieux. C'est probablement qu'il n'y avait pas lieu. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas lieu. Et il a pu recommencer à ce moment-là, tout de suite. Et il a fait jouer une pièce donc, qui était sur Talleyrand, dont il fera un film après très célèbre. Voilà.
Qui est le Diable boiteux. Vous avez donc connu ces années où il a retrouvé. Oui, et après 3 années de silence, il a retrouvé l'inspiration ou eu la force de nouveau d'écrire et de filmer. Vous avez connu ces années de cinéma très prolifiques où effectivement il y a le Diable boiteux. Quelques années plus tard, il y aura Si Versailles m'était compté, en 53, en 54, Napoléon. Est-ce que vous avez connu ces moments où Guitry a fait ses grandes œuvres de cinéma? Et est-ce que vous avez connu cette époque où il a été entouré quand même de grands acteurs? Il faut citer Jean Marais, Orson Welles, Jean Gabin, Daniel Darieux, Michel Morgan, Yves Montand. Il a tourné à cette époque beaucoup de films avec Michel Simon.
Oui, j'ai bien entendu, j'ai connu cette époque. Il faut dire que ça a été sa revanche. Sa revanche. Parce que, à part sa pièce sur Talleyrand, Mais le film est très supérieur. Au quoi, c'est à peu près la même chose. Parce qu'au fond, il voulait faire un film. Et on lui a interdit. La censure a dit comment il rentre pas. Talleyrand, c'est une manière de prendre sa propre défense. Alors on a fait une pièce qui a eu un immense succès. Mais le texte est à peu près le même. Mais dans le film, il y a le personnage. Et là, il a toujours été auteur et acteur. Et là, il est un grand acteur. Hein, quand il joue Talleyrand, c'est superbe, c'est extraordinaire. Et puis, automatiquement, ayant fait un film, il en a fait deux, et puis on a recommencé à lui en demander.
Quel était votre rôle dans le monde de Guitry? Vous étiez son confident? Vous avez assisté à certains tournages ou à certaines répétitions? Où est-ce que vous vous placiez, vous, Alain Decaux?
Non, je n'ai pas du tout été le collaborateur de Sacha pour ses films, non. Non, non, moi j'étais le jeune ami, et c'est ainsi qu'il m'a toujours vu. Jamais il ne m'a demandé de conseils pour ses films. Là, il avait avec lui tout un personnel, dont son assistant, le fils de Jeanne Fusier-Gilles, qui a beaucoup travaillé avec lui. Et voyez-vous, récemment, je suis allé à la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale a hérité de toutes les archives de Sacha Guitry, qui étaient énormes. Et on est en train justement de puiser dedans pour l'exposition qui va se tenir à la Cinématographie française, qui traitera. Et donc, la conservatrice de la Bibliothèque nationale, qui est responsable de tout ça, m'en a parlé. Et j'ai dit, est-ce que je peux venir jeter un coup d'œil sur ces manuscrits? Mais oui, vous venez quand vous voulez. Et je suis pris au hasard, vous savez, il y en avait des milliers, hein. Et j'ai pris au hasard, je suis tombé sur un des scénarios de Sacha. Et là, il y avait de sa main les mouvements de caméra. Pour ceux qui disent « Ah ben oui, mais il n'a jamais été un cinéaste », c'était un parfait cinéaste. Les avancées, le cadre, c'était de sa main. C'était tapé à la machine avec toutes les indications de la main de Sacha Guitry. C'est ce que Truffaut a été le premier à voir avec la Nouvelle Vague, en disant, nous, ce que nous voulons faire, c'est d'être les auteurs en totalité de nos œuvres. Eh bien, nous avons un maître, c'est Sacha Guitry. Il nous a montré le chemin depuis trop longtemps.
Alors, qu'est-ce qu'il vous disait, Sacha Guitry, pendant ces moments d'entretien, à vous, le jeune confident?
Vous savez, en général, c'était plutôt lui qui parlait que moi. Et moi, je le mettais sur la route. Je lui disais, mais alors, vous avez connu Claude Monet, je le sais. Ah oui. Et il se mettait à parler de Claude Monet pendant une heure. J'étais au comble du bonheur. Et puis aussi d'autres qu'il avait connus. Vous savez, par exemple, quand il m'a raconté que quand Claude Monet est mort, Sacha était tout jeune, mais il était amoureux, en quelque sorte. Il était fou de Claude Monet. Comme quand on admire, on est fou de l'auteur, d'un peintre, d'un écrivain. Et là, Clémenceau, qui était à la retraite, s'était retiré en Vendée et qui avait la même admiration pour Claude Monet, on lui a téléphoné. Il est mort. Il avait une Rolls qui lui avait été donnée par le roi d'Angleterre en remerciement de tout ce qu'il avait fait pendant la Grande Guerre. Il a sauté dans la Rolls, il a dit à son chauffeur, on roule jour et demi. Et il est arrivé au matin à Paris. Et là, il a été directement chez Claude Monet, et qui était étendu, mort, pas encore dans son cercueil. Oh si, il était déjà dans son cercueil. Clémenceau était furieux de ne pas l'avoir revu. Et on avait jeté sur le cercueil ce tissu noir que mettent les pompes funèbres. Et Clémenceau a éclaté d'une rage incoercible. Tout ça me racontait Sacha. Comment ? Pas de noir pour Monet. Il avait des rideaux à fleurs. Il a arraché les rideaux et les a mis à la place. Voilà. J'avais comme ça des récits et c'était formidable pour moi. J'ai pris quelques notes quand même.
Vous n'avez rien écrit réellement sur votre relation avec Sacha Guitry. Vous en avez parlé lors d'une émission télévisée, je crois, dans l'histoire de la France et des Français. Alain Decaux raconte l'histoire de la France et des Français. Il y a un épisode où vous parlez de l'entre-deux-guerres et vous parlez de Sacha Guitry. Mais il n'y a rien d'écrit sur Sacha Guitry. Vous pourriez consacrer une œuvre entière à Sacha Guitry, à vous entendre.
On me l'a demandé souvent. J'ai hésité et puis j'ai pas eu envie de le faire parce que ce souvenir est tellement pour moi immense dans ma vie. Je me dis que, par exemple, je n'écrirai jamais un livre sur une femme que j'aurais aimée. C'est pas la même chose. Il y a fait dans le personnage de Sacha, il aimait trop les femmes. Faut pas croire que bon, il y a eu de rapports de quelque chose. Mais j'ai pas eu envie parce que j'ai raconté dans mes mémoires l'essentiel, mais écrire un livre entier, j'ai pas eu envie vraiment.
Est-ce que Sacha Guitry vous parlait beaucoup de son père? Il se trouve que la première pièce qu'il ait écrite à la sortie de la Libération après ses 3 ans de silence, c'était en 1948, c'était Le Comédien, qui est une pièce en hommage à son père. Et pour la première fois, Sacha y joue Lucien. Et il dit « J'ai fait Lucien Guitry parce que Lucien Guitry m'a fait ». Et à cette époque, il s'étonne et il s'amuse de la ressemblance au fur et à mesure des années entre lui-même et son propre père.
Oui, oui, sûrement, sûrement. Mais il parlait de son père sans cesse. Son père, il était habité par le souvenir de son père. Et quand il m'évoquait tous les gens qu'il avait connus pour mon bonheur, il me parlait beaucoup, beaucoup de son père. Vous savez que c'est son père qui avait fait construire l'hôtel particulier du Champ de Mars. Et à la mort de son père, il était venu y habiter.
Et c'est Lucien Guitry qui était l'ami de Monet avant Sacha, évidemment. Sacha avait aussi prolongé certaines amitiés paternelles.
Oui, sûrement, mais aussi les écrivains. Oui. Parce que toutes les semaines, il y avait un déjeuner chez Lucien Guitry où on retrouvait Jules Renard, Tristan Bernard, Alfred Capus, Alphonse Allais quelquefois. Et un jour, Sacha, encore tout jeune, a eu le droit de venir s'asseoir à la table du déjeuner et s'est mis tout à coup à écouter ces gens qui étaient très brillants et qui étaient d'ailleurs, raconte Sacha, très durs entre eux. Ils ne pardonnaient rien. Si quelqu'un disait quelque chose, tout le monde se foutait de lui. Et Sacha ajoute, ils épargnaient Alphonse Allais toujours parce que ils savaient qu'il allait mourir. Parce qu'il buvait énormément, il savait que ça l'amènerait fatalement à la mort. Enfin, tout ça est dans ma mémoire, et pour jamais.
C'est un homme aussi qui détestait la solitude, je crois. Il aimait bien s'entourer.
Écoutez, là, pendant les débuts dont je vous ai parlé tout à l'heure, il était seul, hélas, ce n'était pas de sa faute. Mais c'est vrai qu'il aimait bien que, notamment des gens autour de son travail. Il aimait les comédiens. Il avait pour les comédiens un attachement très grand. Et je dois dire que pendant la période terrible de l'abandon, beaucoup de comédiens ne l'ont pas abandonné. On les a vus revenir l'un après l'autre et ça, il était très heureux quand il les voyait. Voilà. Alors autrement, bon, la solitude, et il n'avait pas souhaité, mais dès qu'il a recommencé à travailler, il n'a plus jamais été seul. À la fin de sa vie, malheureusement, très malade, il souffrait énormément. Alors fatalement, il ne voulait plus voir même ses amis, parce qu'il donnait une image de lui-même qu'il savait défavorable, il était défiguré. Voilà, alors là, évidemment, il restait seul avec sa femme, et puis les très intimes, comme Henri Jadoux, qui a été pour lui un homme qui l'a aidé pendant des années, notamment pendant la période, même pendant qu'il était en prison. C'est Henri Jadoux qui a fait passer à Drancy une couverture, voilà, un matelas pneumatique, dont Sacha a tiré un chapitre, enfin, quelques pages désopilantes dans son livre « 60 jours de prison », comme quoi, une fois gonflé, il ne pouvait pas se coucher parce qu'il tombait à terre. Et les autres qui partageaient sa prison essayaient tous et tout le monde roulait par terre. Mais il y a 5 ou 6 pages qu'il faut lire parce que c'était quand même un homme infiniment drôle. Et que même dans son malheur, il ne pouvait pas s'empêcher de faire rire.
J'ai noté les quelques phrases qu'il a écrites dans 60 jours de prison. À n'en pas douter, il y a de la comédie dans tout cela. Il parle de son arrestation et même aussi de l'imposture. Oui, c'est du théâtre et du mauvais théâtre, improvisé, factice, avec des amateurs qui jouent au canevas. Et c'est pourquoi je prends la détermination d'être le spectateur des événements qui vont se produire, n'ayant pas pour habitude de jouer dans les pièces des autres.
C'est tout à fait lui. Tout à fait lui. Tout à fait lui. Alors il raconte également comment un frêne, dans les derniers jours de sa captivité, une équipe d'Américains sont arrivés, évidemment, Américains, service du cinéma, etc. On les laisse entrer. Et ils viennent voir Sacha. Et puis, ils veulent tourner, est-ce du cinéma, est-ce de la photo, je ne peux pas en jurer, mais ils le racontent. Et ils lui disent, il n'y a pas assez de lumière. Alors les gardiens sont obligés d'ouvrir la porte et voient avec effarement Sacha s'éloigner avec les Américains dans la cour. Mais avec plus d'effarement encore, quand ils l'emmènent dehors, où il y a leur voiture. Et Sacha a raconté qu'à un moment donné, ils lui ont fait un clin d'œil en montrant la voiture. Allez monter. Et il a refusé en disant non, parce que ce serait mal pour moi, parce qu'on disait qu'il s'est enfui. Et voilà, et c'est vrai que ça aurait pas été bien calculé, puisqu'il a été libéré quelques jours après.
Est-ce qu'il y a quelque chose que Sacha Guitry regrettait ?
Je ne me souviens pas vraiment qu'il y ait eu des regrets de Sacha Guitry. C'est possible. Il ne les formulait pas parce que justement il ne voulait pas les formuler. Mais c'est plus que des regrets. C'est cette épouvante des gens qu'il avait trahis. Ça, il n'a jamais pardonné. C'est plus que des regrets. Mais des regrets disant j'aurais dû plutôt faire ci que ça, ce n'est pas son genre.
Est-ce qu'il a regretté de ne pas être entré à l'Académie française ? Est-ce qu'il y tenait tellement, finalement ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est entre les deux guerres où il y a eu un certain nombre d'académiciens qui y ont pensé pour lui. Et alors, vous savez, nous sommes toujours les mêmes. Pour ceux qui pensent à quelqu'un, ils en parlent aux autres. Et il n'y avait pas vraiment de rejet, mais une seule exigence qu'on lui a fait connaître. S'il devient académicien, il doit renoncer à faire l'acteur. Et lui, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Pour lui, c'était un tout, ses pièces qu'il écrivait et ses pièces qu'il jouait. Il a donc fait savoir qu'il n'était pas question qu'il renonce. On a dit, alors il faut qu'il renonce à l'académie. Voilà. Mais il est entré à l'Académie Goncourt quelque temps après.
Vous, Alain Decaux, vous avez fait entrer, en quelque sorte, Sacha Guitry à l'Académie française, puisque votre épée d'académicien porte l'émeraude qu'il vous a offerte.
Non, c'est pas lui qui me l'a offert. Non, 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 non. C'est vrai, c'est vrai. Mais il se trouve qu'après mon élection, on m'a apporté une petite boîte avec une lettre. J'ai d'abord lu la lettre, elle était signée Lana Guitry, donc son épouse survivante, et qui me disait, cher Alain, à propos de mon élection, comme il eût été heureux. Alors vous allez trouver dans cette boîte la chevalière qui ne quittait jamais sa main, que l'émeraude en soit ôtée et insérée dans votre épée. C'est ce que j'ai fait. Même il y avait la chevalière en or. L'or a servi de faire un petit cadre en or dans lequel l'émeraude est insérée. Et alors, Lana Marconi, Lana Guitry, avait ajouté cette phrase qui prouve que l'esprit est contagieux. Dans un couple comme celui-là, elle m'a dit ce sera sa manière à lui d'endosser l'habit vert. Voilà. Et j'ai toujours dans mon épée cette. Voilà.
Cette preuve de l'existence de Sacha Guitry encore aujourd'hui au théâtre et au cinéma. Merci beaucoup Alain Decaux, merci pour ce témoignage.
Merci de m'avoir entendu.